Bonjour à tous et bon sabbat. Le 1er avril 2009, peu après minuit, mon patron s'est présenté devant le tribunal des faillites du district sud de New York aux États-Unis et a déclaré notre entreprise SGI en faillite. SGI avait été l'une des grandes entreprises technologiques de la Silicon Valley dans les années 90. Elle a été fondée par les fondateurs de la compagnie Netscape, le tout premier moteur de recherche Internet. SGI avait fourni la dernière technologie à Steven Spielberg pour son film original Jurassic Park. Et si vous étiez cool, vous aviez un ordinateur SGI. Les revenus se chiffraient en milliards de dollars. Et le président des États-Unis, Bill Clinton, est venu prendre la parole lors des événements organisés par l'entreprise. Une année, l'entreprise a décidé d'acheter une montre suisse de très haute qualité, Tag Heuer, à chaque employé et a invité les Beach Boys à participer à un pique-nique de l'entreprise. Aujourd'hui, le musée de la technologie de Silicon Valley est installé dans un ancien bâtiment de SGI. Et il existe une petite entreprise, entre guillemets, dont vous avez peut-être entendu parler, Google, qui a acheté le campus de siège social de la SGI. Et y réside toujours aujourd'hui. J'avais décidé de rejoindre SGI en 2008 en tant que chef comptable, avec l'intention de faire partie de l'histoire de redressement de cette icône technologique. Et maintenant, le jour de poisson d'avril, je me sentais plutôt bête de me retrouver le dirigeant d'une entreprise en faillite, en plein milieu d'une grande récession. SGI a été racheté lors des procédures de la faillite par une autre société. Et heureusement, on m'a offert le poste de chef de la comptabilité de la nouvelle société. Mais je n'oublierai jamais l'une de mes premières réunions avec le PDG de la nouvelle société, où il a décrit les rapports qu'il voulait que je lui fournisse pour diriger la nouvelle société. Lorsque je lui ai demandé pourquoi il voulait certains des rapports qu'elle avait mentionnés, il m'a regardé. Il m'a répondu qu'il venait d'acheter une entreprise en faillite. En d'autres termes, vous avez échoué dans votre façon de diriger l'entreprise et je n'ai pas faire les choses comme vous l'avez fait parce que je ne veux pas échouer. Ça fait mal d'entendre ça. Car même si je n'avais travaillé dans cette entreprise que depuis un an, je faisais quand partie d'une entreprise en faillite. Et j'y jouais un rôle. J'avais participé à un grand échec. Nous n'avons pas parlé de nos échecs. L'échec n'est pas beau à voir. L'échec est embarrassant. Et l'échec peut avoir des conséquences à long terme s'il n'est pas géré correctement. Aujourd'hui, je voudrais parler d'échecs. L'échec comme dans la faillite, le divorce, la défaite, le manque de jugement, la mauvaise décision, le sentiment qu'il n'y a pas de solution pour se sortir d'un problème. La Bible dit que les conséquences du péché sont également un exemple d'échec. Comment se remettre après l'échec? Comment avancer quand il semble qu'il n'y a pas avenir? Comment vivons-nous avec nous-mêmes après avoir échoué? Le titre du message d'aujourd'hui est « Face à l'échec ». Et si vous, pardon, si nous avons affaire à la culpabilité, à la honte, ou si nous essayons de trouver comment aller de l'avant, j'espère que ce message nous éveillera à nous remettre sur la bonne voie pour vivre comme Dieu le voulait. Nous allons lire un extrait du livre des Lamentations, puis nous examinerons les causes et les différentes réactions face à l'échec. Donc, je voudrais commencer aujourd'hui dans le livre des Lamentations. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Lamentations 3 et verset 1. Lamentations 3 et verset 1. Je pense qu'il n'y a pas d'autre endroit dans la Bible qui exprime vraiment les profondeurs de désespoir et le sentiment d'échec comme ce livre. Et même si nous n'avons pas trop y penser, affronter l'échec signifie ressentir de la douleur. Le contexte du livre des Lamentations est la chute de Jérusalem et le renversement de la nation de Juda. La chute de Jérusalem fut le résultat des siècles de mauvaises décisions et de mépris des lois de Dieu, et le résultat fut la destruction totale de leur mode de vie. C'est un livre de douleur nationale et l'auteur parle de la douleur collective, du châtiment du peuple, de la nation. Lisons Jérémie 3, verset 1. Je suis l'homme qui a vu la misère sous le verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. L'échec, c'est comme dans les ténèbres, c'est comme dans une sorte de mort. C'est sentir assiégé et amer. C'est comme nous vaillir et nous déchire. Ça brise notre esprit. Et nous allons continuer à lire. Allons, prenez courage, parce que ce n'est pas agréable à contempler. Et verset 7. Il m'a entourné d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné des ponces, des pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer de secours. Verset 8. Oui, verset 9. Oui, continuez. Il ne laisse pas accès à mes prières. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade et un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tenu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Quand nous échouons dans notre marche spirituelle de la foi, c'est comme si Dieu ne pouvait pas entendre nos prières. C'est comme si quoi que nous essayions, il n'y avait aucune issue. Tout est bloqué. Et si vous pouvez imaginer ce que signifierait d'être mutilé par un lion ou par un ours, ce que cela signifierait d'être mutilé et littéralement déchiqueté. C'est un peu cela, le sentiment d'avoir complètement échoué. On a l'impression que quelqu'un vous utilise littéralement comme cible d'un entraînement. C'est le sentiment d'échec. Et continuons au verset 13 maintenant. Verset 13. Il a fait entrer dans mes reins. Les traites de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillère. Chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a resserré d'amertume et m'a enverré d'obscinte. Il a brisé, verset 16, il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cintre. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et verset 18, et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quelle situation avec... c'est vraiment une discussion de la cour brisée, de l'espérance, désespérance. Nous serions presque épuisés, rien, quand en lisant ces lignes. Pour moi, l'image de quelqu'un qui prend des graveurs, graviers, et le fournit dans ma bouche en me cassant les dents, est tellement descriptive de sentiments de défaite complète et totale. Et maintenant, verset 19. On peut lire verset 19 maintenant. Quand je pense à ma détresse et à ma misère et l'obscente et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Voilà, et après, ainsi, finalement, après 21 versets, nous entrevoyons un soupçon de lumière dans les ténèbres. J'aime la façon dont le commentaire biblique expositeur a décrit cette espérance ici. Il dit, l'espoir que l'auteur exprime ici n'est pas créé en niant ou en minimisant la souffrance et la misère. Au contraire, ils sont transformés lorsque l'esprit est tourné vers Dieu. Rien n'est minimisé. Il ne prétend pas ou ne nie pas la réalité, comme David l'a dit dans le psaume 51, quand il dit « Mon péché est constamment devant moi ». C'est le fait d'accepter, de confronter totalement, d'aller en toute connaissance de cause vers la douleur que Dieu désire. Ce n'est pas nécessaire de reporter, mais Job a dit à la fin de son livre, Job 42, vous pouvez noter au verset 5 et 6, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur le cintre. L'implication est que je te vois, Dieu, et je me vois moi-même. Et le gouffre est si grand entre ta bonté, la bonté de Dieu, et ma nature pécheresse, que je ne peux plus supporter de vivre avec moi-même et je dois me repentir, je dois changer. C'est en jetant un regard honnête sur notre propre condition humaine que peut alors jaillir l'espérance. Nous en arrivons donc maintenant au verset 22. Au verset 22, juste au verset 26 maintenant, dans Lamentation 3, verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherchait. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel. Nous ne pouvons pas vivre le verset 22 tant que nous n'avons pas confronté ce qui est décrit au verset précédent par rapport au fait de confronter l'échec. Nous ne pouvons pas nous relever de l'échec par la grâce de Dieu avant d'avoir passé du temps à réfléchir sur l'état brisé de notre propre cœur et notre propre échec. Si vous remarquez les 21 premiers versets, il n'y a aucunement question de jeter le blâme sur quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'excuse donnée. Il n'y a pas de tentative d'obscurcissement ou d'évoquement à la cause réelle de l'échec. Il y a une prise de responsabilité. Il y a le fait d'accepter les conséquences. C'est dans ces 21 versets que nous apprenons la leçon que Dieu nous enseigne. À mon travail, je faisais partie de l'équipe. J'ai assisté aux réunions. J'aurais pu prendre parole et tenter de changer le cœur des choses. Mais mon entreprise a échoué. Nous avons refusé d'écouter peut-être. Nous avons pris des décisions sans obtenir les conseils nécessaires. Nous étions tentus. Nous avons prétendu que les choses n'allaient pas si mal. Quelle qu'en soit la raison, Dieu exige que nous prenions responsabilité de notre échec et que nous en affrontions les causes. En tant que nous ne l'aurons pas fait, Dieu ne s'approchera pas de nous parce que nos péchés nous sépareront de lui. Ce que nous voyons dans le livre de Lamentations est un échec au niveau national. Ce que nous voyons, c'est une nation qui, pendant des années, n'est pas cru que Dieu d'amour les tiendrait éventuellement responsables. Après, rappelez-vous, ils étaient le peuple de Dieu sur terre. Et leurs échecs furent une chose horrible, décourageante et douloureuse à regarder. Alors, maintenant, à quoi ressemble l'échec sur le plan personnel? Nous avons déjà parlé de l'échec national, mais maintenant l'échec plus personnel. Examinons quelques causes et effets de l'échec. La première chose que je voudrais mentionner, c'est que l'échec est causé et parfois se répète à cause de notre cœur tortueux ou trompeur, comme le dit la Bible anglaise. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Jérémie 17 et verset 9. Jérémie 17, à partir de verset 9. Jérémie 17 et verset 9. On peut lire le verset ici. Il dit, Jérémie 17, au verset 9, « Le cœur est tortu par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sondre les reins, pour rendre à chacun selon ses voies. » Nous devrions vraiment réfléchir à ce que cela signifie pour nos vies. Parce que si nous ne croyons pas, nous continuerons à croire en notre propre pouvoir pour être bons. Nous continuerons à supposer que nous sommes bons pour nous, par nous-mêmes, même en dehors de Dieu. Les êtres humains veulent désespérément avoir l'impression d'être bons ou d'être perçus comme tels. C'est très difficile et douloureux d'échouer et de voir les autres remarquer notre échec. Alors, quand nous péchons, quand nous ratons la cible, quand nous échouons, notre nature humaine normale veut aller se cacher quelque part. Nous devons lutter contre ce désir et décider de nous regarder nous-mêmes de façon réaliste. Nous devons nous voir tels que nous sommes vraiment. Le deuxième point ici, c'est que l'échec a lieu et se répète parce que nous nous cachons de ceux qui peuvent nous aider. Vous pouvez voir ça dans Genèse 3, verset 8. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Genèse 3, verset 8, et on peut voir l'exemple de nos premiers parents. Genèse 3, verset 8 à 10. Genèse 3, verset 8 à 10. Il dit, « Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Je me suis caché. Adam et Ève se sont cachés de Dieu et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, en tant qu'êtres humains, nous nous cachons quand nous faisons des erreurs. La réalité est que la plupart des êtres humains, y compris les chrétiens, convertis dans l'Église de Dieu, ont énormément de mal à faire face à leur propre échec. Nous voulons simplement prétendre que cela ne s'est pas produit ou prétendre que ce n'était pas de notre faute et rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Dès le début du temps, avec le premier homme et la première femme, nous voyons dans les pages de la Bible l'atomie de la honte et ce qui crée maintenant une séparation entre nous et Dieu. Un problème fondamental est notre refus d'admettre que notre propre cœur peut nous tromper et que notre propre cœur engendre des pensées mauvaises. C'est la nature de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Nous désirons être bons, ou trop souvent simplement être perçus comme bons. Dieu est notre Père, Dieu est bon. Nous sommes faits à son image, et il a établi en nous le désir d'être comme lui. Mais quand nous échouons, nous pouvons facilement réagir comme Adam et Ève. Nous ne pouvons pas y faire face. Nous ne pouvons pas accepter d'être moins que ce que nous savons que nous devrions être. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se cache. On met une façade. On fait semblant. On ne veut pas que les gens sachent qu'on a des problèmes. Nous nous justifions. Nous blâmons les autres. Nous faisons tout pour éviter d'affronter le fait que nous avons manqué la cible. Tout sauf d'admettre que nous avons échoué. C'est trop douloureux. Surtout, nous, les hommes, on a du mal à faire face à l'échec. La peur de l'échec peut nous saisir, nous mettre sur la défensive, au point que les autres ne peuvent même pas nous parler de nos problèmes. Cela nous met en colère. Alors que nous essayons de persévérer cette fausse image que nous avons de nous-mêmes. Reportez-vous s'il vous plaît à Luc 8 et verset 17 pour voir quelque chose, une vérité dans la vie et une vérité très importante dans cette discussion. Luc 8 et verset 17. Quelque chose de très important au sujet de l'échec. Luc 8 et verset 17. Il dit, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Une partie de la conversion, c'est de comprendre que lorsque nous échouons, ce n'est pas une affaire de dissimulation, c'est une affaire de nettoyage, une affaire de confession. Le Dieu de miséricorde, qui nous aime tant, ne nous permettra pas de rester cachés. Nos tentatives de cacher nos échecs ou nos manques, nos déficiences vont échouer. Chaque chose secrète sera révélée. Ce n'est qu'une question de temps. Quand nous essayons de nous cacher, nous finissons souvent par porter seul un lourd fardeau. Nous refusons de demander l'aide. Nous refusons de demander conseil. Car nous préférons que les gens ne sachent pas ce qui se passe dans notre cœur et dans notre esprit. C'est trop douloureux à considérer, trop difficile à déballer pour que personne d'autre ne puisse le voir. Alors, comment faire face à l'échec? Il y a trois points qui ressortent d'un enseignement donné à Timothée par l'apôtre Paul dans 1 Timothée 1, versets 12 à 17. Donc, reportez-vous s'il vous plaît à 1 Timothée 1 et verset 12. 1 Timothée 1 1 Timothée 1 verset 12. Le premier point que Paul partage avec Timothée ici est assumer la responsabilité de notre comportement. Donc, la première chose pour faire face à notre échec, c'est assumer la responsabilité de notre comportement. La raison pour laquelle Dieu nous dit que notre cœur est tortueux et méchant, c'est parce que cela nous donne un point de départ pour savoir comment nous voir. Avec ce point de départ, nous commençons dans l'humilité totale, en comprenant au plus profond de notre être que sans Dieu, nous échouerons. Point final. Nous devons admettre que sans Dieu, ceci est par défaut notre comportement. Les êtres humains ont la capacité de faire beaucoup de bien sûr, mais chacun d'entre nous échouera à un moment donné, d'une manière ou d'une autre. Donc, verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Verset 13. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'ai agissé par ignorance dans l'incrédulité. Et parfois, nos erreurs sont faites par l'ignorance, mais cela ne change pas l'impact que nous avons eu sur d'autres personnes. Cela n'enlève rien à la responsabilité. Et l'autre société pour laquelle j'ai travaillé, Intel Corporation, a connu des temps difficiles dans les années 80. Et quand j'y travaillais, on nous racontait comment Robert Noyce, Andy Grove et Gordon Moore, les trois fondateurs, discutaient ensemble de ce qu'ils allaient faire. Et Andy Grove avait posé la question suivante. Si nous étions conjugués et qu'une nouvelle équipe prenait nos emplois, que ferait-il pour se sortir de cette situation? Et cette simple question a contribué à transformer l'entreprise et à transformer l'échec en succès. Et pourquoi? Parce qu'il s'est débarrassé de l'orgueil. Il s'est débarrassé de la dissimulation. Il s'est débarrassé des sentiments personnels de culpabilité et de honte. Et s'est débarrassé du blâme. Et il a fait face à la réalité de la situation. Et puis, nous arriverons au verset 14 et notre deuxième point. Le deuxième point, c'est que nous vivons par la grâce. Nous vivons par la grâce. Lisons le verset 14, s'il vous plaît. Verset 14. Et la grâce de notre Seigneur a surbondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Paul a reconnu le besoin de la grâce de Dieu. Et il a accepté la grâce de Dieu. Jésus dit à la femme, surprise en adultère, « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Nous vivons par sa grâce, acceptant que nous méritons la peine de mort, acceptant peut-être avec le cœur lourd les conséquences de nos actions, mais sachant que nous avons été purifiés devant Dieu, qu'il nous a pardonnés, et sachant que nous sommes aussi devenus purs devant les hommes. C'est ce qui a rendu si puissante la prédication de Paul sur la grâce. Remarquez maintenant la déclaration simple, mais puissante du verset 15, qui est notre troisième point. Nous confrontons notre nature pécheresse. Nous confrontons notre nature pécheresse. Verset 15 maintenant. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Paul savait qu'il n'était pas différent des autres dans le monde entier. C'était un pêcheur. Et pas n'importe quel pêcheur. C'était un spécialiste, un chef, un expert, parce qu'il avait beaucoup pêché. Et vous et moi, dans l'Église de Dieu, ne sommes pas différents de n'importe qui d'autre dans ce vaste monde quand il s'agit de nos cœurs, de notre capacité à être tenté et de notre capacité à nous cacher de nos péchés. Et juste pour qu'il soit clair que Paul insiste sur ce point au verset 16, on peut voir verset 16 maintenant. « Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Ai-je échoué? Avez-vous échoué? N'avons-nous pas tous péché et sans Christ, ne serions-nous pas tous privés de la chance d'être avec Dieu dans son royaume? Oui. Chacun d'entre nous, et la prochaine fois que nous sommes tentés de nous vanter d'être dans l'Église depuis 30 ans ou 50 ans ou de penser que nous plus spéciaux que d'une certaine manière, nous ferions mieux de nous arrêter et réfléchir. Nous ne sommes spéciaux que parce que Dieu nous a accordé son esprit et qu'il demeure en nous pour que nous puissions suivre ses voies. Dès que nous ne suivons pas ses voies, nous ne sommes plus spéciaux. Nous ne sommes plus que des pécheurs en quête de grâce. Nous sommes alors des âmes en faillite. Mais quand nous acceptons notre état sans Dieu en nous, c'est là que le changement commence. C'est là qu'on se réveille et qu'on dit « Je suppose que je suis têtu. Je suppose que je suis fermé d'esprit de temps en temps. Je suppose que je suis égoïste. Je suppose que je suis sur la défensive. Je suppose que je me mets en colère pour rien. Ça arrive, ok. Je suppose que je rejette le blâme sur les autres. Je suppose que je ignore les problèmes qui sont en moi. » Oui, c'est à ce moment que nous pouvons nous adresser à quelqu'un qui va nous dire les choses telles qu'elles sont, honnêtement, qu'il s'agisse d'un conseiller professionnel ou d'un membre de la famille. Et nous sommes alors capables de poser des questions telles que « Qu'ai-je fait pour vous blesser ? Que devrais-je changer dans mon comportement pour améliorer notre relation ?» Et puis, nous apportons ces changements. Et quand cela se produit, les mots de verset 17 résonnent avec puissance. Verset 17. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, sois honneur, en gloire au siècle des siècles. Amen. Pourquoi l'honneur et la gloire appartiennent-ils à Dieu pour toujours? Parce qu'il nous a révélé notre péché. Parce qu'il a ouvert notre esprit pour voir la cause profonde de notre échec, notre propre péché. Une citation souvent attribuée à Winston Churchill, mais qu'il n'a pas écrit lui-même et dont la source est inconnue, est, mais c'est important, le succès n'est pas définitif. L'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Quand j'ai lu ce passage dans 1 Timothée, je pense que Paul a continué parce qu'il a avoué son mauvais comportement, qu'il a vécu par la grâce et qu'il n'y a pas prétendu être bon et ne sait pas se cacher quand ils ne l'étaient pas. Il vivait de façon authentique, parce qu'il savait qu'il était. Pas dans le sens de notre culture moderne, qui insiste que nous devrions être ce que nous sommes sans souci de valeur morale. Mais il s'agit de vraiment comprendre la condition de notre nature humaine. En conclusion, je voudrais reporter vers Proverbe 24, verset 15. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Proverbe 24, verset 15. Proverbe 24, verset 15 à 16. Et lire une observation sur les justes, ce qui permet à Dieu de démurer en eux. Versets 15 et 16, il dit « Ne tonde pas méchantement des embouches à la demure injuste et ne dévaste pas le lieu où il repose. Car cette fois, le juste tombe. » Verset 16. Proverbe 24, verset 16. « Car cette fois le juste tombe, et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Les justes savent comment se rétablir. Ils savent comment se remettre sur pied. La puissance de Dieu donne à son peuple la résilience et la capacité de se remettre et de surmonter ses échecs. En dehors de Dieu, un seul échec suffit pour faire tomber les méchantes de bon. Il n'y a aucun moyen. En dehors de Dieu, un seul échec suffit pour faire tomber les méchants pour de bon. Il n'y a aucun moyen de s'en remettre. Affrontons les ténèbres de l'échec pour pouvoir accepter l'espérance de la restauration de Dieu que Dieu nous donne. L'espérance de la restauration à la fois de nos relations physiques aujourd'hui et de nos propres avenirs spirituels dans le royaume de Dieu.